Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Deux militaires tunisiens sont morts ce lundi lors du crash d'un hélicoptère de l'armée, un accident lors d'une mission dans la région de Bizerte. Interpellé vendredi, l'ex-ministre tunisien de la Justice et homme fort d'Ennahda, Nourdine Biri, a été hospitalisé dans un état qualifié de critique. Il a été transféré à l'hôpital de Bizerte. Le cri d'alarme du médecin humanitaire Raphaël Pitti sur la situation en Syrie. Raphaël Pitti s'est récemment rendu à Raqqa, l'ex-capitale autoproclamée de Daesh en Syrie, où la plupart de la population vit dans des ruines et l'autre à l'extérieur, dans des camps. Le professeur Raphaël Pitti sera l'un de nos invités. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a démissionné, une démission à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation réprimée par les autorités issues du coup d'État du 25 octobre. Une série de nouvelles mesures sanitaires est entrée en vigueur ce lundi en France face à la propagation du variant Omicron et l'accroissement de la pression hospitalière. Parmi ces mesures, le télétravail à nouveau obligatoire pour les postes où cela est possible. 3 jours minimum, voire 4, recommande le gouvernement. Nous écouterons Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes en charge des ressources humaines. Deux militaires tunisiens sont morts ce lundi lors du crash d'un hélicoptère de l'armée, un accident lors d'une mission dans la région de Bizerte, dans le nord de la Tunisie. Début octobre, 3 militaires tunisiens avaient été tués dans le crash d'un hélicoptère de l'armée lors d'un entraînement nocturne. Cela s'était produit dans la région de Gabès, dans le sud tunisien. Interpellé vendredi, l'ex-ministre tunisien de la Justice et homme fort d'Ennahda, Nourdine Biri, a été hospitalisé dans un état qualifié de critique. Il a été transféré à l'hôpital de Bizerte. Samedi, l'instance de prévention de la torture et le parti Ennahda s'étaient inquiétés du sort réservé à Nourdine Biri et à un autre dirigeant d'Ennahda, Fatih Baldi, arrêté lui aussi vendredi dernier. La situation en Syrie, un drame humain se passe sous nos yeux, des mots du professeur de médecine Raphaël Pitti, responsable formation à l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Le médecin urgentiste s'est tout récemment rendu en Syrie et notamment à Raqqa. Entretien avec Raphaël Pitti.
Nous sommes allés à Raqqa et nous avons formé 4 équipes constituées d'un médecin et d'un infirmier qui devaient, sur la base d'un protocole que nous avions érigé, aller dans les camps de réfugiés pour examiner les enfants de ces camps de réfugiés, des enfants entre 4 ans et 6 ans, afin d'établir leur état de santé. Auparavant, j'avais travaillé avec la protection maternelle et infantile du département de la Moselle et avec aussi l'Observatoire régional de la santé, ce qui devait faire l'analyse épidémiologique. Il avait été donc entendu que pour avoir un échantillon représentatif de ces enfants, il fallait que les 4 équipes puissent avoir examiné environ 1000 enfants. Et donc entre le 15 novembre et le 15 décembre, et c'est exactement ce qui a été fait, en fait ils en ont examiné 1023, et donc actuellement nous attendons les analyses de cette étude qui a porté à la fois sur le psychologique, sur le cognitif, sur le sensoriel, c'est-à-dire étude éventuellement à la recherche de troubles auditifs ou de troubles visuels, et aussi somatique. Et donc, nous attendons les résultats, mais je peux vous dire dès à présent, compte tenu un peu du rendu que nous avions chaque semaine avec les équipes sur place, et les photos qu'ils m'ont envoyées, que c'est vraiment une situation catastrophique sur le plan sanitaire pour ces enfants qui sont dans ces camps de réfugiés, dans un pays qui est en guerre depuis 10 ans, et ces enfants qui vivent dans ces camps sans aucune éducation, sans aucun moyen sanitaire, et dans un état de santé lamentable.
Vous l'avez dit, vous vous êtes rendu à Raqqa, l'ex-capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Raqqa, où la majorité de la population vit encore dans des ruines.
Oui, la ville est détruite à 60%, avec des zones qui sont détruites à 80%, d'autres qui le sont moins. Mais globalement, en gros, on peut considérer que la ville est détruite à 60% et beaucoup de gens vivent à l'intérieur de ces bâtiments qui sont en ruine. D'autres, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont sortis de Raqqa et vivent dans des camps qu'ils ne peuvent pas considérer véritablement que ce soit des camps. Ils se sont installés en pleine nature, rapprochés les uns des autres, et ils vivent dans une situation de très 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 grande misère, c'est-à-dire qu'ils vivent véritablement sur les poubelles. Il y a même un moment donné où les autorités de la ville de Raqqa avaient envisagé de supprimer ces poubelles, et donc la population de ces camps se sont refusés parce que c'est de là qu'ils tirent leur gagne-pain, ils trient et vendent ce qu'ils peuvent vendre et se nourrissent aussi maintenant des détritus qui sont là. Et donc personne ne peut imaginer, je ne pouvais pas même moi-même imaginer qu'ils étaient dans une telle situation de misère.
Et vous mettez en lumière l'impact psychologique, voire psychiatrique, que cette misère peut avoir sur la population.
Oui, absolument, et elle est très très profonde. Il y a, ces enfants ne reçoivent aucune éducation, c'est-à-dire il n'y a pas d'école qui soit là pour les prendre en charge. Ils vivent, comme je vous l'expliquais, dans les détritus, et leur état d'hygiène est épouvantable.
C'est une situation emblématique de ce qui se déroule aujourd'hui en Syrie. Quelle est la situation globale et est-ce que l'on peut parler d'une situation globale dans ce pays toujours en guerre?
On peut parler d'une situation, oui, qui est globale. Globalement, on peut considérer qu'il y a beaucoup moins de violence, ça c'est vrai. 60% du territoire a été reconquis par le régime et ses alliés, c'est d'ailleurs la Russie et l'Iran. Et il y a encore cette bande du nord, à nord-ouest, c'est la zone dite Idlib, où il y a encore 70 000 rebelles qui sont à l'intérieur de cette zone, mais qui est d'une certaine manière contrôlée par les Turcs. Et de l'autre côté, vous avez le nord-est de la Syrie, qui correspond à ce qu'on appelle le Kurdistan syrien, où il y a la présence des forces kurdes qui sont jusqu'à Raqqa et qui assurent la sécurité de cette zone. Les bombardements sont moins intenses qu'auparavant. Cependant, il y a une situation économique qui est catastrophique, car le pays est détruit. Il y a un effondrement du système économique, il y a un effondrement du système éducatif, il y a un effondrement du système social même, puisque 10 millions de personnes sont déplacées soit à l'extérieur de la Syrie, soit à l'intérieur de la Syrie, ce qui a fait éclater la structure sociale du pays qui était basée sur le communautarisme, bien évidemment, sur les tribus, etc. Et donc, toutes les familles ont subi maintenant cette violence, beaucoup de morts, beaucoup de viols, beaucoup de violences. Donc, la structure sociale de la Syrie est en grande partie très perturbée, ça c'est clair.
Le professeur de médecine, responsable formation à l'Union des organisations de secours et soins médicaux, Raphaël Piti. Le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a démissionné. Une démission à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation. Plusieurs manifestants hostiles au pouvoir militaire ont été tués alors qu'ils défilaient à Omdurman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum. Depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan, le 25 octobre, 56 manifestants ont été tués, des centaines blessés. Une attaque présumée des rebelles Chebab a fait 6 morts au Kenya. C'est arrivé dans le comté de Lamu, une région de l'est du pays qui borde la Somalie. Le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers depuis 2011 et son intervention militaire pour lutter contre ce groupe terroriste dans le sud de la Somalie. Le Koweït appelle ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne. Les autorités les appellent à quitter ces pays s'ils s'y trouvent déjà. En cause, les hausses des contaminations aux variants Omicron du Covid-19. Et une série de mesures sanitaires est entrée en vigueur ce lundi en France face à la propagation du variant Omicron et l'accroissement de la pression hospitalière. Jusqu'au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs et dans les lieux qui reçoivent du public. Les règles d'isolement des personnes testées positives au Covid-19 et des cas contacts s'allègent. Le télétravail est à nouveau obligatoire pour les postes où cela est possible, 3 jours minimum, voire 4, recommande le gouvernement. Les entreprises qui ne respecteraient pas cette décision s'exposeraient à une amende de 1 000 euros par salarié. Béatrice de la Valette, adjointe au maire de Suresnes, en charge des ressources humaines.
Moi je dis à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Je dis souvent que le télétravail, ce n'est pas la panacée et qu'il peut aboutir au pire comme au meilleur. Et qu'il appartient avant tout aux partenaires sociaux eux-mêmes de fixer le bon curseur en fonction des particularités de l'entreprise, de la collectivité. Donc je voudrais revenir sur 2 mots qui ont été prononcés par le Premier ministre, le mot obligatoire et sur le minimum de 3 jours. Avec le recul que nous avons maintenant, l'expérience que j'ai moi-même acquise, puisque j'ai piloté un groupe de DRH à la région Île-de-France, un groupe de travail avec Valeo, Alstom, Schneider Electric, L'Oréal, Total, AXA France, Engie, nous avions signé une charte de bonne pratique. Et donc, il y a aujourd'hui véritablement un consensus à la fois du côté des DRH, des organisations patronales, syndicales, des salariés, pour dire que le télétravail ne peut pas être imposé, mais qu'il doit au contraire se baser absolument sur le seul volontariat. Et d'ailleurs, il y a des entreprises françaises qui avaient cherché à l'imposer 4 jours sur 5, et ça a été une véritable levée de boucliers, à la fois des salariés, des syndicats, et donc ils ont dû reculer. Donc j'insiste bien, hors situation exceptionnelle, je suis totalement contre le fait d'imposer à des salariés qui ne le souhaitent pas, qui ne le peuvent pas, de faire ce que j'appelle du travail à distance, parce que pour moi le télétravail obligatoire, c'est pas du télétravail, mais c'est du travail à distance comme on l'a connu en mars-avril 2020, ou tel qu'il existe dans certaines grandes entreprises américaines, je pense à Twitter par exemple, où on recrute même 100% en télétravail.
Et quelles sont les conditions à réunir pour que ce télétravail se passe bien, aussi bien pour le salarié ou le fonctionnaire que pour l'employeur?
Je l'ai dit tout à l'heure, le télétravail, ça peut être un fantastique levier au service de la productivité, de l'efficacité, du bien-être au travail, qui favorise l'autonomie et une meilleure articulation vie privée et travail. Mais il y a un certain nombre de conditions qui doivent effectivement être absolument réunies au préalable pour créer les conditions de sa réussite. Vous avez tout à fait raison. Donc, quelles sont ces conditions? Télétravail, d'abord, il se décrète pas. Comme le disait fort justement l'ancienne directrice de l'INET qui forme les hauts fonctionnaires territoriaux, c'est pas quelque chose qu'on improvise, ni pour un télétravailleur, ni pour un manager de télétravailleur. Il doit faire l'objet d'un accompagnement poussé par des formations, aussi bien pour les salariés que pour les managers. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma collectivité à Suresnes. Et le rôle des managers, il est absolument fondamental dans ce contexte, parce que ils ont dû et ils doivent continuer à repenser leur manière de guider leurs équipes en accompagnant le changement, en accordant du temps, de l'attention à chacun individuellement et à l'ensemble de l'équipe. Il faut repenser aussi le management à distance, qui doit être beaucoup plus flexible, davantage dans la confiance que dans le contrôle hiérarchique. À Suresnes, par exemple, j'ai tenu à rappeler l'ensemble de ces enseignements, de ces perspectives, dans un guide du télétravail qui a été distribué à l'ensemble de nos télétravailleurs et des managers. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, télétravail, ça doit être une démarche volontaire. Et le point d'équilibre, justement, il se situe à 2-3 jours, selon l'entreprise ou la collectivité. Parce que à partir de 3 jours, il existe en effet un véritable point de bascule, parce que vous passez plus de temps à l'extérieur que de l'entreprise. Le professeur Légeron, que j'avais auditionné à l'époque, avait alerté sur les risques d'atteinte à la santé mentale, de détresse psychologique, en cas de rupture du lien social, lorsque le travail est effectué dans un logement exigu ou dans des conditions familiales difficiles. Vous savez, avant la crise sanitaire, nous avions 6% de télétravailleurs. Nous sommes passés à 40% et c'est vrai que nous avons un petit peu baissé ces derniers temps, mais il y a un an, nous étions à plus de 3% encore.
Certains employeurs ont semblé réticents à accepter le télétravail. Comment l'expliquez-vous ?
Ce que vous dites était très vrai, mais beaucoup plus vrai avant la pandémie, lorsque le télétravail ne concernait que 6% des salariés. Il y avait alors une vraie défiance, c'est vrai, des employeurs et des organisations patronales à l'égard du télétravail, qui était peu connu, mal perçu, pas pratiqué. Et donc, certains pensaient à tort que le télétravail ne rimait pas avec travail. Et à cette époque, la majorité des syndicats de salariés, au contraire, eux appelaient de leur vœu une augmentation du télétravail. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes presque un peu à front renversé avec des organisations patronales qui ont beaucoup progressé sur le sujet et qui ont perçu tout l'intérêt du télétravail, hein, et des syndicats qui aujourd'hui en pointent aussi les dangers et appellent à limiter le nombre de jours. Alors, il y a certains employeurs, pour des raisons d'économie, il faut le dire, hein, de mètres carrés, avait même souhaité l'imposer en vain. Je vois bien, hein, quand il y a 10 salariés, aujourd'hui on est passé à 8, 7, quelquefois 6 bureaux en matière de télétravail. Donc on voit bien les économies importantes d'échelle qui peuvent être faites en termes de mètres carrés. Donc la crise sanitaire a bouleversé tout ça, hein, ça a été un véritable saut de génération de 5 ou 10 ans. Ça a fait sauter toutes les réticences des employeurs, des réticences managériales, des réticences techniques. On a vu que c'était possible, même sur des postes qu'on n'imaginait pas télétravaillables. On s'est aperçu qu'ils étaient télétravaillables. Et les employeurs ont découvert que beaucoup de tâches qu'ils n'imaginaient pas télétravaillables pouvaient être faites. Donc aujourd'hui, il y a un usage, je dirais, beaucoup moins rigide, beaucoup plus souple du télétravail. Ils ont compris que ça pouvait constituer un vrai gain de temps et d'efficacité considérable. Les études qui indiquent que c'est 20% de productivité en plus. Et on se rend compte que le temps passé, finalement, en présentiel, doit être beaucoup plus qualitatif, qui doit être davantage dédié à des réunions d'équipe, du brainstorming. Et il y a aujourd'hui plus de 85% de ceux qui pratiquent le télétravail qui veulent continuer à le pratiquer. Et je crois que les employeurs ont compris que le monde du travail est en pleine mutation, qu'on ne travaillera plus demain comme on travaille aujourd'hui. Je pense aux attentes des nouvelles générations qui vont composer la majorité des effectifs dans 10 ou 15 ans et qui plébiscitent totalement ces espaces de travail informels, la flexibilité, l'ultra-connectivité, des modes de management plus souples et le télétravail. Donc moi, qui suis représentante d'un employeur, j'ai vraiment souhaité participer à cette transformation du monde du travail qui doit s'appuyer pour moi sur trois valeurs cardinales. C'est autonomie, confiance et responsabilité.
Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes dans les Hauts-de-Seine, en charge des ressources humaines, elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, et Dionneur Excellent, maire de Villetaneuse, auteur de « Quelle France en héritage ?», émission rediffusée ce mardi matin à 7h. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un grand merci pour votre fidélité.